bienvenue à votre carrefour science et santé consacré essentiellement au virus Zika qui défraie la chronique. Pas de plaisir sans danger, la transmission du virus Zika par la voie sexuelle, l'urine et la salive est possible. Et attention, pas de traitement, pas de test de vaccin à grande échelle avant au moins 18 mois selon l'OMS. Il faut s'armer de patience pour vaincre Zika.
Il faut qu'on s'arme de patience, on travaille très très vite, beaucoup de gens s'intéressent à cette question et donc il faut juste laisser le temps de faire cela. Je pense que la plupart des gens qui travaillent là-dessus sont conscients des enjeux.
Le chercheur sénégalais sur Zika, le docteur Amadou Sall de l'Institut Pasteur de Dakar, nous dira l'attitude à adopter face à la complexité de cette épidémie. Eric Manilakiza est heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Carrefour. Le virus Zika est très fortement suspecté en cas de contamination d'une femme enceinte, d'entraîner une grave malformation congénitale du fœtus, la microcéphalie, réduction du périmètre crânien, néfaste au développement intellectuel. Et récemment, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié d'urgence de santé publique de portée mondiale les malformations congénitales et les microcéphalies. Le virus Zika est aussi associé au syndrome de Guillain-Barré, maladie neurologique qui peut entraîner une paralysie irréversible ou la mort. Même si le lien de causalité est hautement probable, aucune preuve scientifique incontestable n'a encore été présentée à ce jour. Pour mieux comprendre cette épidémie, le docteur Amadou Sall, qui dirige l'Institut Pasteur de Dakar et activement impliqué dans la recherche sur Zika, revient d'abord sur la genèse et la transmission du virus.
Le virus Zika, en fait, est un virus qui a été isolé en Ouganda la première fois en 1947. Depuis lors, il a un peu été retrouvé dans différents endroits du monde, d'abord en Afrique, dans la plupart des cas, et ensuite, à partir de 2007, il y a eu en Micronésie une épidémie qui était assez inhabituelle avec un nombre de cas un peu plus important. Ensuite, il y a eu des événements majeurs en Polynésie française en 2013 et 2014 qui ont donné lieu à des épidémies majeures et pour la première fois, des syndromes sévères neurologiques ont été un peu notés par rapport au virus Zika, notamment avec le syndrome de Guillain-Barré. Et récemment, avec la description du virus, l'entrée du virus au niveau du Brésil, il a été noté que ce virus avait été associé dans le temps et dans l'espace avec l'apparition de microcéphalies, bien qu'il ne puisse pas être établi un lien formel entre le virus Zika et les microcéphalies. C'est quelque chose qui est assez inhabituel dans le contexte dans lequel on connaît Zika. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, c'est une infection qui est transmise par les moustiques. Et cette infection, en général, est assez bénigne et elle est inapparente dans près de 80% des cas. Et c'est les rares cas où elle donne lieu à des symptômes. Elle présente des syndromes, un syndrome pseudo-grippal, c'est-à-dire avec un peu de fièvre et des arthralgies, un peu de fatigue, qui au bout de quelques jours va se résorber. Et que donc c'est généralement ce que je veux dire sur le virus Zika. Et voilà, le mode de transmission, on connaissait les moustiques. Il y a eu une transmission probable peut-être qui est liée à un rapport sexuel et c'est des discussions autour des possibilités concernant la transfusion. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire sur le virus du Zika. Il n'y a pas à ce jour de traitement spécifique ni de vaccin. Et donc le meilleur moyen de s'en protéger, c'est de lutter contre les moustiques par une approche de contrôle antivectoriel.
Et c'est toutes sortes de moustiques. C'est quel genre de moustiques qui cause ce virus?
C'est plutôt les moustiques du genre Aedes qui transmettent le virus Zika. Donc c'est plutôt les virus du genre Aedes qui ont été retrouvés comme étant très très efficaces pour le virus Zika, même si d'autres espèces ont pu être trouvées, mais les principaux, les moustiques Aedes.
Ce sont des moustiques, par exemple, qui sont sur tous les continents ou c'est dans certaines parties du globe?
Bon, les moustiques Aedes sont sur l'ensemble du continent. Enfin, ils sont souvent dans les zones plus concentrées dans les zones tropicales et subtropicales, même si on peut les voir dans les zones un peu éloignées. Mais globalement, elles sont présentes sur tous les continents.
Sachez, chers auditrices et auditeurs de VOA Afrique, que les experts sauront dans quelques semaines si le virus Zika cause la microcéphalie et le syndrome Guillain-Barré. Mais les essais cliniques à grande échelle de vaccins ne devraient pas démarrer avant 18 mois, au moins, a prévenu vendredi l'OMS. Néanmoins, les chercheurs ont déjà identifié un potentiel mode de contamination, la voie sexuelle, selon le docteur Amadou Sall.
Alors, comme je vous l'avais dit, c'est la transmission sexuelle est quelque chose de probable. C'est qu'il y a eu un certain nombre de cas où on suspecte que la transmission a été sexuelle, mais il n'y a pas de preuve formelle là-dessus. C'est que c'est très suspecté. Compte tenu d'une infection qui a été documentée, et une des voies qui a probablement pu être en jeu, ça a été la voie sexuelle. Donc, ce n'est pas un mode de diffusion qui est très répandu, et il n'est pas très fréquent en tout cas pour ce que l'on en sait aujourd'hui. Mais je l'ai évoqué dans le contexte de moyens possibles de transmission, mais le moyen prédominant à ce jour est la transmission par les moustiques.
Les États-Unis ont signalé un cas de transmission par voie sexuelle au Texas. La femme enceinte s'avère être la plus vulnérable. Le docteur Amadou Sall est bien clair, pas de traitement ou de vaccin spécifique pour combattre Zika.
Au jour d'aujourd'hui, il faudrait, comme je vous disais, s'assurer parce que la cause, le Zika étant la cause des microcéphalies, n'est pas vraiment quelque chose d'établi aujourd'hui. Même s'il y a un certain nombre d'arguments qui vont dans ce sens, comme le fait qu'on a retrouvé du virus dans le liquide amniotique des enfants qui ont eu des femmes enceintes qui ont donné lieu à des enfants avec des microcéphalies, comme le fait qu'on a retrouvé du virus chez des tissus de fœtus qui présentaient un peu un contexte de microcéphalie. On ne peut pas, pour l'instant, sur la base de ces seuls arguments, dire que c'est la cause, même s'il y a des arguments qui vont dans ce sens. Alors on parlera plutôt d'association. Maintenant, si la cause est établie, il faudrait voir par quel mécanisme cela se fait. Mais à ce jour, ce mécanisme n'est pas connu.
Si le virus n'a ni médicament ni prévention, est-ce mortel?
Bon, la mortalité du virus Zika n'est pas très très importante. Elle est quasiment très 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 faible. D'après ce que l'on en sait jusqu'à présent, en tout cas, c'est l'infection chez l'adulte. Maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de thérapie, il faut dire qu'il n'y a pas de thérapie spécifique. Ça veut dire qu'on n'a pas aujourd'hui une molécule spécifiquement prouvée comme étant active contre le virus Zika. Quand on dit qu'il n'y a pas de vaccin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyen de prévention, puisque le virus étant transmis par des moustiques, on peut lutter contre ces vecteurs. Et donc, c'est la lutte antivectorielle qui est prônée. Et donc, pour éviter les piqûres de moustiques, par ce moyen-là, on peut prévenir l'infection par le virus Zika.
Selon la sous-directrice de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Marie-Paul Kieny, des vaccins sont actuellement à l'étude dans une quinzaine de laboratoires et agences nationales de recherche. Deux vaccins semblent prometteurs. L'un est développé par l'Institut national de la santé américain et l'autre par le laboratoire indien Bharat Biotech, a-t-elle affirmé. Le Brésil, le pays le plus touché par le virus Zika et qui risque de compromettre les Jeux olympiques de Rio, dont certains pays pourraient renoncer à envoyer les athlètes, a annoncé un partenariat avec les États-Unis visant à trouver un vaccin contre le virus Zika. Maïlys Hegel en est au courant.
Jeudi, lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé, Marcelo Castro, a déclaré que le gouvernement brésilien va investir 1,9 million de dollars ces 5 prochaines années pour le partenariat entre l'Université du Texas des États-Unis et l'Institut Evandro Chagas au Brésil. Castro a déclaré que le ministère de la Santé a également mis en place des partenariats avec les centres américains de contrôle des maladies et de la prévention. Pour développer des vaccins, le ministère cherche également à travailler avec le géant pharmaceutique GSK. Mercredi, le New England Journal of Medicine a publié un rapport renforçant le lien entre le virus Zika et une augmentation de certaines malformations congénitales, comme la microcéphalie. Ce rapport est issu d'une étude de chercheurs slovènes et a été soutenu par un groupe d'experts de la santé américain. Les conclusions de l'équipe slovène fournissent la preuve que les malformations congénitales associées au virus Zika peuvent être causées par la réplication du virus dans le cerveau.
Ne quittez pas, Carrefour continue dans quelques instants. Eric Manelakiza en votre compagnie, c'est le virus Zika qui retient aujourd'hui notre attention dans ce numéro de Carrefour. En effet, le virus Zika présente quelques symptômes communs à plusieurs infections, mais ce virus n'est pas détectable dans 80% des cas. Explication avec notre chercheur, le docteur Amadou Sall.
Oui, en fait, ce que je disais, c'est que le virus Zika, quand il infecte dans 80% des cas, ne va pas donner des symptômes. Ça veut dire que la personne ne va pas faire une infection avec des signes qu'on va voir, même s'il est infecté, même si le virus va se développer dans son sang et dans certains de ses fluides comme les salives ou les urines. Mais dans 20% des cas, ces signes vont être apparents. Il va avoir une éruption cutanée, il va avoir de la fièvre, il peut avoir des maux de tête, il peut avoir des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des articulations. Donc, une fois que ce type de symptômes se présente, ces symptômes sont communs à plusieurs infections. Et c'est pour ça que pour pouvoir faire un diagnostic, on a besoin d'avoir recours au laboratoire. Et donc, à partir d'un prélèvement de sang, de salive ou d'urine, on peut essayer de détecter le virus si l'infection, si le prélèvement a été fait au moment où on a les symptômes ou à l'état précoce de l'infection. À partir de ce moment-là, on peut essayer de détecter le virus par différents moyens, soit en mettant en évidence son matériel génétique, soit en isolant le virus lui-même. Mais aussi pour lorsque l'infection est un peu plus tardive, c'est-à-dire au-delà de 5 jours, on peut essayer de rechercher les anticorps qui sont dirigés contre ce virus. Donc les moyens de diagnostic sont vraiment ce type d'approche virologique, de détection du matériel génétique, de l'isolement du virus ou de la détection des anticorps, soit récents, soit anciens. Et par rapport à ces différentes méthodes, il faut savoir qu'on a souvent recours à des techniques de confirmation. Mais globalement, l'approche diagnostique est celle que je viens de vous décrire.
Il y a la Croix-Rouge qui propose de stopper le virus en contrôlant les moustiques vecteurs. Au niveau de vos recherches, est-ce que c'est une mesure, par exemple, qui peut aider à maîtriser Zika?
Bon, tout dépend du contexte dans lequel se fait la transmission. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le virus Zika peut circuler dans un contexte relativement de forêt. Et de ce point de vue-là, pour cibler les vecteurs, c'est un peu plus difficile pour contrôler la maladie dans une zone rurale à transmission essentiellement selvatique, ce qu'on appelle la transmission de forêt. En revanche, quand il se passe dans un contexte un peu domestique ou dans un contexte urbain, la lutte antivectorielle peut aider à décroître la population de moustiques et de ce point de vue-là, de permettre de prévenir l'infection par le virus Zika, puisque cela permet d'éviter l'étiquette de moustiques qui porte ce vecteur-là. Donc je pense que c'est un moyen de lutte qu'il faut prendre en compte, et même si ce n'est pas un moyen simple à mettre en œuvre.
Est-ce que réduire la pauvreté aussi pourrait beaucoup contribuer?
Bon, ça dépend de ce que vous entendez, la pauvreté et les conséquences. Je pense que réduire la pauvreté permet, enfin, je pense, de lutter contre beaucoup de choses, et ce n'est pas spécifiquement par rapport aux Zika. Si vous voulez mieux reformuler la question, je ne comprends pas très bien la question.
Comme c'est lié aux moustiques et que les moustiques, par exemple, aiment dans des endroits, disons, moins propres, est-ce que accompagner la lutte contre Zika par des mesures de réduction de la pauvreté, est-ce que ça peut contribuer?
Bon, en fait, par rapport aux moustiques, ils ne sont pas liés forcément à des contextes comme vous appelez des quartiers pauvres ou cela, puisque on sait que dans des endroits qui sont relativement riches, si je peux m'exprimer ainsi, on peut trouver ce type de vecteur. Il est arrivé de voir dans un certain nombre d'épidémies ces vecteurs justement être dans des villas qui sont assez bien cossues. Justement parce que c'était dans des contextes où les gîtes dans lesquels se trouvaient les moustiques, c'était soit des pots de fleurs de jardin ou ce genre de choses. Donc en fait, il n'y a pas un lien nécessairement avec la pauvreté. Si votre par pauvreté, vous entendez plutôt l'habitat dans lequel les gens vivent. Maintenant, il est sûr que des problèmes d'assainissement ou des problèmes de gestion des déchets au niveau péridomestique peuvent être des gîtes qui sont assez favorables à la population de moustiques, dont des vecteurs du virus Zika.
Mais docteur, pourquoi le virus se manifeste le moins chez l'homme que chez la femme? C'est du moins notre impression.
Non, c'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme, ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que le virus va être asymptomatique dans la majorité des cas. Dans 1%, va donner des symptômes. Maintenant, la seule nouveauté qu'il y a actuellement, c'est que si le lien entre le Zika et le microcéphalie est établi, c'est-à-dire que c'est la femme enceinte qui peut avoir un risque, même si ce risque n'est pas de 100%. Donc voilà, je pense qu'en dehors de cet aspect précis, au jour d'aujourd'hui, chez l'adulte, en termes d'expression clinique, nous ne notons pas de différence pour ce que l'on en sait entre les hommes et les femmes.
Quand est-ce qu'on peut espérer pouvoir établir ce lien, s'il existait?
Bon, il est très difficile de faire des prédictions dans le domaine de la recherche, puisqu'on investigue selon plusieurs pistes avec des méthodes pour lesquelles il est extrêmement difficile de donner une date précise ou un moment quand est-ce qu'on va trouver le résultat. Donc je pense que il faut qu'on s'arme de patience. On travaille très très vite. Beaucoup de gens s'intéressent à cette question. Et donc, il faut juste laisser le temps de faire cela. Je pense que la plupart des gens qui travaillent là-dessus sont conscients des enjeux. Ils font le maximum pour arriver à une réponse le plus rapidement possible.
Et depuis quand des recherches ont été lancées sur Zika et quelles sont, disons, les avancées déjà enregistrées?
Bon, le virus Zika, justement, a été découvert dans le cadre d'un programme de recherche sur l'écologie des arbovirus, donc ça date des années, à la fin des années 40. Et depuis cette période, plusieurs choses ont été comprises. On a compris qu'il est transmis par les moustiques, on a compris qu'il est transmis par les moustiques Aedes, on a compris qu'il y avait un cycle de forêt et un cycle plus domestique et peut-être un contexte urbain. Depuis lors, nous travaillé beaucoup sur la dispersion de ce virus en Afrique et dans le monde. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour développer des outils diagnostiques de plus en plus efficaces. Et de ce point de vue-là, il y a une meilleure compréhension aussi de la présentation clinique des personnes. Et par rapport au diagnostic, on a mieux compris les fuites sur lesquelles était présent le virus Zika. C'est pour ça qu'on a pu voir la détection dans les urines peut-être un moyen pour disposer d'informations plus précises en matière de diagnostic, mais au-delà des 5 jours. Et donc, les avancées majeures qui ont été faites ont été faites tout dans ce sens-là. Mieux comprendre la bioécologie des vecteurs, mieux comprendre la compétence des moustiques qui vont transmettre ce virus, mieux comprendre comment ils diffusent et les meilleurs moyens pour le diagnostiquer. C'est essentiellement des avancées notables ont été faites dans ce domaine.
L'OMS juge approprié de reporter les dons de sang des voyageurs revenant de pays à risque où sévit le virus Zika après qu'une femme enceinte de retour de Colombie ait été diagnostiquée en Espagne, une première en Europe. Comment alors identifier le moustique ADF et l'éviter, docteur Amadou Sol?
Bon, enfin, les moustiques Aedes, n'étant moi-même pas entomologiste, j'ai été amusé à aller dans une description très détaillée là-dessus, mais c'est un moustique qui est relativement commun. Un des très communs qu'on comprend, c'est Aedes aegypti, qui vit dans un environnement urbain dans la plupart des cas, mais aussi il y a toute une série d'Aedes qu'on peut retrouver en forêt, que ce soit Aedes lithocephalus, Taylori, plutôt là, de ce point de vue-là, en Afrique. Et les autres Aedes aussi, on parle beaucoup d'Aedes albopictus, qui est le moustique tigre dont on entend beaucoup parler. Et globalement, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que c'est des moustiques qui peuvent vivre dans l'environnement urbain, pour lequel il est important d'éviter, pour s'en protéger, d'avoir des déchets ou d'avoir des gîtes pour ce type de moustiques autour des habitats. Et c'est important donc de faire un travail d'assainissement. Et de ce point de vue-là, en matière de lutte antivectorielle, de se protéger en ayant des habits avec des manches longues, en utilisant des répulsifs et en faisant des campagnes pour faire une désinfectisation.
Compte tenu des cas de microcéphalie et de malformations congénitales qu'on a vues notamment en Amérique latine, il y a des pays par exemple qui ont déconseillé les couples à avoir des enfants. Est-ce que vous pensez que c'est une meilleure solution?
Moi, je pense que c'est toujours difficile de donner un avis sur ce type de décisions qui sont des décisions relativement individuelles. Je peux comprendre que les autorités de santé publique n'ayant pas de preuve claire entre le Zika et le virus et les microcéphalies puissent conseiller d'éviter des grossesses. Mais de ce point de vue-là, c'est vraiment difficile de donner un point de vue assez clair, puisque je considère que c'est là des décisions individuelles et que après, c'est aux personnes concernées de prendre des décisions.
Apparemment, il y a beaucoup de panique et l'OMS dit qu'il faut agir, que nous devons agir. Est-ce qu'il y a-t-il à paniquer réellement?
Bon, enfin, je pense que nous vivons rien de particulier par rapport à des réactions dans des contextes de santé publique. Il y a des nouveautés. Et je pense que souvent, quand il y a une nouveauté en matière de santé publique, on n'a pas l'impression d'en maîtriser les causes ni l'évolution. Il peut y avoir une inquiétude dans les populations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités de santé publique, que ce soit à l'OMS ou dans la plupart des pays, sont mobilisées. Et souvent, il y a de très grands professionnels dans ces organisations et dans ces pays qui viennent souvent avec une bonne organisation, avec une bonne coordination qui peut se passer à l'échelle locale, nationale ou internationale, peut permettre de venir à bout de ce genre de situation. Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas lieu de paniquer et c'est vraiment de comprendre qu'il y a vraiment une inquiétude et que tout ce qui est faisable au jour d'aujourd'hui, que ce soit au niveau des chercheurs, des professionnels de santé publique ou au niveau des autorités sanitaires nationales et internationales, est en train d'être fait pour permettre justement de venir à bout de ce problème.
L'ONU a demandé aux pays touchés par le virus Zika, soupçonnés de provoquer des malformations congénitales, d'autoriser l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement, une question encore sensible en Amérique latine, région la plus touchée par l'épidémie. Bien qu'il n'existe ni traitement ni vaccin spécifique pour lutter contre le virus Zika, le docteur Amadou Sall propose l'attitude à adopter par les États et en particulier les individus.
Moi, je pense que c'est comme les recommandations qui sont données partout. Il faut savoir que pour l'instant, dans les pays où ça circule, les recommandations est vraiment d'éviter les piqûres de moustiques. Et je pense qu'en l'état actuel de ce qu'on sait, les moyens qu'on a, c'est un peu ce qu'il faut conseiller à toutes les équipes. Maintenant, il y a beaucoup de pays où actuellement le virus ne circule pas. Et donc, il n'y a pas lieu justement d'appliquer certaines mesures. Le fait que ce soit transmis par des moustiques aussi fait que des conditions peuvent être favorables dans certains endroits et pas dans d'autres. Et donc, il faudrait avoir une stratégie qui se décline vraiment par pays et par contexte. Donc, il est absolument difficile de dire que voilà toutes les recommandations qu'on a données sur l'Afrique, puisque l'Afrique, enfin du nord au sud, est quelque chose de très, très différent en termes d'écologie et donc en population de moustiques et en comportement potentiel d'une épidémie. Et donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment se référer à des situations cas par cas, mais de manière générale, au jour d'aujourd'hui, le moyen de prévention le plus sûr qu'on ait actuellement, c'est avec lequel on a plus de recommandations, et de lutter contre les morts.
Avant de boucler la boucle, Maëlys Hegel va nous parler d'une étude américaine qui vient de paraître et revient sur les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'administrer systématiquement des antibiotiques aux enfants souffrant de malnutrition. Souvent, les antibiotiques n'améliorent pas le rétablissement mais accroissent les risques de résistance microbienne.
Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ce slogan français datant de 2002 est plus que jamais d'actualité. Une étude américaine publiée dans le New England Journal of Medicine suggère de changer la pratique médicale dans les pays en voie de développement pour les enfants mal nourris. Depuis des années, l'OMS traite les enfants souffrant de malnutrition aiguë avec des antibiotiques, qu'ils en aient besoin ou non. L'étude américaine conseille de réduire ces traitements antibiotiques routiniers, car cela aide les bactéries à développer des résistances. Trop utilisés, les antibiotiques deviennent donc inefficaces. La malnutrition aiguë sévère, associée à des infections bactériennes, peut entraîner de graves complications. C'est cela qui a conduit l'OMS en 1999 à recommander que tous les enfants mal nourris soient hospitalisés et traités avec des antibiotiques pour réduire le risque de mortalité. Mais dernièrement, un nombre grandissant d'enfants mal nourris ont reçu des antibiotiques avant même de tomber gravement malade et sans aller à l'hôpital. Des chercheurs ont donc suivi 2399 enfants âgés de 6 à 59 mois vivant dans des zones rurales au Niger et qui souffraient de malnutrition sans complications. Pendant une semaine, la moitié a reçu un antibiotique, l'amoxicilline, et l'autre, un placebo. Le résultat, 65,9% des enfants traités à l'antibiotique se sont rétablis, contre 62,7% dans l'autre groupe. Les chercheurs ont conclu qu'il n'y avait donc pas de différence significative dans les chances de rétablissement entre les deux groupes. Donc pour conclure, les antibiotiques ne sont pas aussi performants que nous le pensions. Attention à ne pas en prendre souvent car ils détruisent nos défenses immunitaires.
La vie nous réserve toujours des surprises, un mal comme un bien, c'est pourquoi elle mérite d'être vécue. N'oubliez pas que je vous aime, comme le dit bien Jérôme Arnaud Wagner. Ainsi s'achève Carrefour Sciences et Santé. Nous disons merci au docteur Amadou Sall, chercheur sur Zika et dirigeant de l'Institut Pasteur de Dakar. Merci à vous tous pour votre oreille attentive. Eric Manelakiza vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.